Oui, merci Jean-Paul pour m'avoir passé la parole. Je remercie l'ensemble des organisateurs pour m'avoir proposé de faire cette conférence. Donc voilà, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui, et en particulier que ce soit Jean-Paul qui me propose ça. Il était dans mon jury d'HDR en 2005, donc ça date. Et pour une fois que je peux faire quelque chose pour lui rendre service, j'en suis très heureuse. Alors aujourd'hui, le colloque s'appelle Nature et Ville, et là on m'a demandé de traiter de l'alliance ou de la mésalliance de la ville. On a eu quelques exemples dans l'introduction qui concernent notamment la menace que pourrait provoquer la nature sur la ville, donc les menaces de la nature sur la ville. Donc c'est un sujet souvent qui est beaucoup traité et sur lequel je ne reviendrai pas. La question sur laquelle je vais plutôt me focaliser aujourd'hui, c'est de savoir finalement est-ce qu'il est possible de concilier, à mon sens, deux désirs qui sont indispensables à l'homme, qui sont intrinsèques, et celui de l'urbanité, le fait qu'on ait un instinct grégaire, qu'on veuille vivre les uns avec les autres, et qu'on veut en même temps se protéger de la nature, et puis de l'autre côté, ce désir de nature qui finalement est aussi propre à chacun. Et donc, est-ce qu'il y a une conciliation possible, ce qui veut dire aussi une manière d'interroger la ville et la nature, dans une perspective qui est purement une perspective en termes d'aménagement ou de politique publique, même politique économique, et celle de faire en sorte que les citadins aient un niveau de bien-être le plus élevé possible. Donc ça, c'est la question de fond de mes recherches et pourquoi je traite de la nature en ville. Parce que la première chose qui m'a intéressée dans la nature en ville, c'est finalement comment on peut faire en sorte que les citadins soient le mieux possible, vivent le mieux possible dans leur ville, donc augmenter au maximum leur niveau de bien-être et donner les moyens aux aménageurs, mais aussi aux politiques, d'agir dans ce sens-là, étant donné que la politique publique, c'est quand même l'économie du bien-être, entre guillemets. Comme vous le voyez, j'ai pris cette photo qui est en fait une commande que j'avais passée à un photographe à Paris en lui disant, voilà, je dois faire une couverture d'un ouvrage, j'ai beaucoup de photos de nature, mais finalement, il n'y a pas la photo que je veux. L'ouvrage, comme vous voyez, ce qui m'intéressait, c'est évidemment désir et controverse. Et de me dire, finalement, la nature, elle est souvent perçue dans l'espace urbain comme quelque chose de purement positif. Et puis, de l'autre côté, il faut la protéger, elle est très fragile. Et c'est ce qui est perceptible. Et donc, j'avais passé commande en disant, je voudrais montrer le fait de cette fragilité de la nature et en même temps poser la question de l'urbanisation, de l'aménagement. Et donc, une photo inattendue, parce que normalement, je voulais des humains, je n'ai pas d'humains, où là, on perçoit bien, avec ce petit lac, la sensibilité, la fragilité de la nature, sa beauté. Donc, on voit bien la politique urbaine. Et puis, de l'autre côté, des grues en construction. Et donc, on voit bien les tensions qu'il peut avoir entre ces deux éléments-là. Voilà pourquoi, en fait, c'est une photo qui n'était pas prévue, évidemment. C'est la seule photo qui n'était pas prévue. On m'a dit, tu veux voir celle-là ? J'ai dit oui, je vais voir celle-là et c'est la première, je n'ai même pas regardé les autres. Donc ça m'a pris 2 secondes de sélectionner parmi à peu près 300 photos à Paris de nature. Donc ne me demandez pas de quoi traitent les autres, je ne les ai pas regardées. Donc le plan, déjà là, ça permet finalement de voir l'optique de mes travaux de recherche et puis de voir aussi la question qui me taraude depuis maintenant 2011. À ce propos, je remercie André Thor de m'avoir défié un jour en me disant « Tu veux pas écrire un article sur la nature en ville parce que là, il me faut quelqu'un qui fasse de l'urbain. » Et voilà pourquoi j'ai commencé à travailler là-dessus avec Roland Vidal de l'École du paysage de Versailles pour recadrer. Donc c'est un défi. Le plan de la présentation, c'est évidemment un plan, on va dire, pas forcément classique, mais où je vais essayer de relever un certain nombre d'hypothèses qui sont celles des transformations de nos villes à travers l'histoire urbaine, en montrant que finalement il y a un changement aujourd'hui qui serait peut-être un processus de verdissement de notre société, une conscience écologique qui émergerait et puis finalement qui générerait un déploiement végétal, vous voyez bien, dans les villes françaises. Ensuite, la question que je me pose, c'est est-ce que tout ça c'est nouveau ? Est-ce que la nature en ville, où elle se situait dans le temps ? Et donc je vais vous montrer l'évolution de la nature en ville à travers l'histoire urbaine française. Évidemment, les représentations et les formes ont évolué et on peut s'interroger sur le fait que s'il y a une appétence aujourd'hui pour la nature en ville, est-ce que quelque part c'est lié au fait que cette nature nous ferait du bien ? Et donc, voir valider ou infirmer cette hypothèse de la nature nous ferait du bien, et donc on serait conscient de cela, et si on est conscient de cela, à ce moment-là, notre désir de nature apparaît. Et donc, dernière question, quelle est la nature que l'on peut désirer ? Et là, c'est à travers des enquêtes qui ont été menées, il y a pas mal d'enquêtes, et puis dernièrement, un travail qui est mené sur le lien entre bien-être et nature à l'échelle des villes françaises, mais aussi des espaces ruraux. Voilà. Et puis évidemment, conclusion, c'est que si la nature est un élément constitutif de notre bien-être, si on arrive à déterminer la nature qu'on désire, et finalement introduire de la nature dans la ville parce que ça nous fait du bien, est-ce que quelque part on remet pas en question ce qu'est la nature elle-même, et donc est-ce qu'on n'est pas dans un processus d'instrumentalisation de la nature, et donc l'émergence d'un homo qualitus? Est-ce que cet homo qualitus qui va faire de la nature, de son désir de nature et de cette satisfaction de son désir de nature quelque chose qui appartient à son bien-être, est-ce qu'il sera capable, lui, de préserver la nature compte tenu du fait que il y a des tensions qui sont d'ordre économique? Donc voilà, instrumentalisation de la nature à travers le choix des services écosystémiques. Donc le verdissement de la société. Ce qu'on peut montrer, ce qu'on voit assez facilement, c'est qu'on a une montée de la sensibilité environnementale. Cette prise de conscience, elle n'est vraiment pas nouvelle. Déjà en 1922, on nous disait qu'on était rentré dans une période anthropocène. Donc c'est quelque chose qui n'est pas récent. Il faudra attendre évidemment 1968 avec le club de Rome et 1972 avec le rapport The Limit of Course, qui sera pour prendre conscience un peu plus de ça. Et en 2000, on verra que Kreutzer et Stomer vont porter à connaissance ou diffuser ce terme d'anthropocène. Donc, ce qui veut dire qu'on a une prise de conscience de la part de l'ensemble de la planète, on va dire, mais que cette prise de conscience, elle n'est pas nouvelle, elle existait déjà, mais simplement elle se restreignait au cadre, au milieu scientifique. Donc aujourd'hui, cette prise de conscience est globale et on est conscient des effets du mode de vie et de notre développement, de l'activité humaine sur la nature et sur notre environnement. Et c'est évidemment la question de la finitude des ressources. La preuve en est assez simplement tous les accords internationaux pour préserver la biosphère. Leur traduction nationale, on y pense évidemment, ou locale, comme le Grenelle 2 et l'émergence de la trame verte et de la trame bleue. La loi Allure, qui finalement nous prouve qu'au niveau international, on prend conscience de ce phénomène qui va rejaillir sur notre réglementation à l'échelle nationale et locale, donc en France. Deuxième élément qui permet de voir qu'il y a une prise de conscience de la nécessité de faire avec la nature et de la préserver, c'est évidemment le monde économique. Le monde économique lui-même se saisit de cette question de la nature. La preuve en est, dans les critères d'attractivité des villes, on voit émerger le nombre de mètres carrés de verre par les habitants, les aménités naturelles, la possibilité de se promener le long des berges, etc. Donc si le monde économique se saisit de ça et dit que pour qu'une grande ville ait du pouvoir économique, il faut qu'elle ait des aménités naturelles, c'est qu'il y a un véritable enjeu, et cette conscience, elle a atterri dans les cercles économiques. Donc elle devient un enjeu économique, la nature devient un enjeu économique. Donc là, on a évidemment le jeu des acteurs économiques, toutes les premières couvertures que vous pouvez voir, Nantes, Bordeaux, comme villes les plus vertes et les plus attractives de France, quels sont les critères qu'on va utiliser? Évidemment, ça, c'est ce qu'on a en toile de fond, mais ce qui va nous intéresser, évidemment, pour nous aujourd'hui, c'est la société civile. Comment se situe la société civile? La société civile elle-même, elle est consciente de la nécessité de préserver notre environnement. Et là, on le voit, quand on pose la question à des Lyonnais en 2012, « Pensez-vous que le développement de votre ville menace la nature ?» 75% nous répondent « C'est oui, c'est effectivement un gros souci. » Alors ça, c'est juste un exemple. On voit émerger également, dans cette société civile, un certain nombre de pratiques, hein, la montée en puissance de l'économie sociale et solidaire, qui va faire en sorte de mettre en place un nouveau mode de vie, d'aller vers le lent, de prendre en compte les circuits courts, d'avoir une gestion raisonnée de nos ressources. Donc même l'économie sociale et solidaire, ou encore toute cette participation citoyenne qu'on va voir émerger avec notamment le florissement des trottoirs, elle est liée à cette prise de conscience. Et on le voit, qu'est-ce qui se passe ? Ben, les citadins deviennent des jardiniers. On voit l'exemple de Lyon est emblématique, hein, sur le pavé Les Fleurs. Je vous renvoie à un article qui est sorti dans Métropolitique pour montrer que finalement on allait fleurir la ville. On voit aussi émerger de nouvelles pratiques, le désherbage chimique est proscrit, on revient à une gestion dite différenciée. Donc on repense notre manière de gérer le naturel et on préconise une nouvelle manière de vivre ensemble et de produire en termes d'activité, de produire des biens et des services. Donc vous voyez que pour moi, l'économie sociale et solidaire, le lot, le fait maison, le bricolage, l'agriculture bio participent, sont des preuves de ce verdissement sociétal. Alors ce verdissement, on se dit, mais à quel moment il apparaît ? Est-ce qu'il est si nouveau que ça ? Et à quel moment il apparaît ? Ben, il apparaît à pas n'importe quel moment. Il apparaît au moment où finalement l'horizon de vie de la plupart des terriens est la ville. En 2007, on a plus de 50% d'urbains sur notre planète. Et on a une diffusion du mode de vie urbain. Alors cet homme, il est devenu, l'homme finalement est devenu un homo urbanus, si on reprend la terminologie de Jeremy Rifkin en 2001. Mais évidemment, il a été complètement déconnecté de la nature. On pourrait revenir sur le processus de déconnexion. J'ajouterais que la plupart du temps, on oublie l'heure. C'est-à-dire la journée solaire était très importante, nous permettait de nous connecter. Donc ça, c'est juste en passant. On voit émerger une nouvelle aspiration. C'est celle, cette nécessité de renouer avec la nature. Il a besoin de disposer des agréments de la ville tout en satisfaisant son désir de nature et de calme. Donc vous voyez, urbanité, nature, ces deux désirs qui sont pour moi, vous allez voir, liés l'un à l'autre. L'homme devient quoi alors ? Un homo calitus. Donc c'est une hypothèse qu'on avait lancée en 2011 avec Antoine Bailly dans un article dans la Géographie, Économie et Société. Et finalement, petit à petit, 6 ans, 7 ans après, je peux dire que oui, il est présent cet homo calitus. Donc hypothèse qui va de plus en plus être validée. Alors qu'est-ce que c'est que cet homo calitus ? C'est un homme qui ne va pas chercher simplement à satisfaire son besoin matériel et immatériel, mais qui va faire également de la satisfaction de son désir de nature et de la préservation de son environnement un élément de son bien-être. Et donc de l'homo economicus, où on cherche simplement à satisfaire son bien-être matériel et immatériel, on arrive à l'homo calitus, je satisfais mon bien-être matériel et immatériel, je dois satisfaire mon besoin, mon désir de nature, mais j'ajouterais que la préservation de mon environnement est un élément de mon bien-être. Donc on voit le basculement. Et donc, à ce moment-là, la nature devient l'objet du désir des populations et un élément de leur bien-être. Donc l'homo calitus, qu'est-ce qu'il fait ? C'est vous, moi, peut-être plus vous que moi, on ne reviendra pas là-dessus. L'homo calitus, il réintroduit dans son espace de vie la nature par petites touches. Et là, on voit le monde végétal qui va ressurgir et la ville va s'habiller de nouvelles couleurs. Alors, quelle est cette palette colorée de la ville française ? Elle se barre de nouveaux attributs, des berges aménagées. Et là, je pense que Jean-Paul, lors de son introduction, a bien montré et a bien illustré ces éléments-là. Des jardins partagés, des toits végétalisés, 44 hectares pour Paris en 2014, si je ne m'abuse. Des rues qui vont être fleuries, des mini-potagers de rues, des pieds d'arbres, des jardins suspendus, des ovins d'odeur. Et à côté de ça, Alors, tout ça, vous allez le traiter dans le colloque, ça sera traité. Donc, vous voyez, je fais juste un petit panorama, parce que ce n'est pas l'objet de cette conférence. À côté de ça, on a des initiatives en faveur de la nature en ville. Donc, les campagnes de fleurissement des trottoirs, l'embellissement des murs, l'installation de mini-potagers, la repolonisation et les jardins provisoires. Cette nature, elle est complètement publique. Alors, évidemment... c'est une nature publique, mais elle se fait dans l'espace public. Mais il ne faut pas oublier, et ça, je pense qu'on a intérêt à investiguer ce champ, c'est qu'il y a aussi de la nature dans les espaces d'entreprise au sein de nos villes et chez les particuliers. Donc ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel on pourrait travailler. Donc est-ce que ça, c'est nouveau ? Peut-on dire que tous ces attributs sont vraiment réellement nouveaux ? Est-ce que la nature n'a jamais été présente dans nos villes françaises ? Et on va voir qu'on a eu une nature qui a été chargée de symboles et qu'on est arrivé à une nature artifice dans les villes françaises, plus tard devenir un objet d'aménagement aujourd'hui. Donc j'ai pris quelque chose d'assez classique, j'ai découpé notre période historique d'histoire urbaine en trois phases. La phase pré-industrielle, la phase industrielle et la phase post-industrielle que je fais démarrer à la fin du 20e siècle exactement. Je ne sais plus avec ces siècles. Donc c'est quelque chose qu'on avait déjà utilisé dans d'autres travaux, donc j'ai repris ce découpage parce que pour moi il avait un sens sur l'histoire urbaine, il est assez classique. Donc si on regarde, on va voir que au cours de l'histoire urbaine, les formes de la nature en ville, elles ont évolué. Elles ont évolué à travers des éléments qui sont assez intéressants, les transformations sociales, les transformations politiques, mais aussi des innovations techniques, mais aussi la question religieuse. On va voir que finalement, c'est un ensemble de transformations qui fait que nos représentations et la manière d'insérer la nature dans la ville a évolué. Donc, sur la période pré-industrielle, la nature, elle s'oppose à l'urbain, clairement. Elle est peu présente dans les villes françaises. Elle répond, évidemment, aux besoins physiologiques de l'homme. Cette nature, elle est liée à la religion. Elle est parée de symboles. Le lys, c'est quoi ? C'est la pureté. La mandragore, c'est le malin. Donc, on a une nature qui est source de bien-être spirituel. D'accord ? Et on est en plein dans l'orthodoxie augustinienne, c'est-à-dire qu'il est nécessaire de tourner son regard vers le monde intérieur de sa conscience et surtout pas regarder la nature parce qu'elle va nous perturber. Donc cette nature, on va la trouver où ? C'est plutôt une nature privée, peut-être à quelques exceptions près, dans les résidences royales, l'hôtel Saint-Paul du roi Charles V, dans les jardins botaniques avec Henri IV qui permet la création du jardin de l'école de médecine à Montpellier, c'est un des premiers jardins. Et on peut prendre. Et en fait, on avait une nature où il y avait évidemment pas mal d'animaux. On a de jolies lignes écrites sur dans un hôtel du Marais l'ensemble des volailles et autres tourterelles qu'on pouvait avoir. Donc voilà, la nature, elle était présente, mais dans des espaces privés. À la Renaissance, il y a quand même une modification. On va avoir cette conception de la nature, elle va laisser la place au paysage, à la nature artifice, celle de l'art. Donc là, les jardins deviennent une forme d'art. Au XVIIe siècle, c'est l'émergence des jardins à la française qui vont prendre la place finalement des jardins de la Renaissance avec le labyrinthe. Leur beauté de ces jardins, elle est quoi ? Elle est simplement gage de grandeur, de prestige social ou d'une ville, du prestige d'une ville. On a l'émergence des premiers boulevards plantés à cette époque avec le cours de la Reine. D'accord ? À Paris, où les arbres et des arbres sur la place à Nancy, sur la place Stanislas. Au 18e, là, on a un basculement. C'est l'émergence de l'homme sensible. C'est la nature de Jean-Jacques Rousseau. La nature est le réceptacle des sensations de l'homme. Elle est dessinée, elle est féconde. Elle est l'antagonisme de la ville. C'est la nature, plutôt, de la campagne anglaise. Donc on quitte complètement l'orthodoxie augustinienne pour arriver vers cet homme sensible et cette déconnexion ou cet antagonisme entre ville et nature. J'arrive évidemment à la période industrielle. Et là, qu'est-ce qui se passe au 19e? Alors tout ça, il n'y a pas des ruptures franches, hein, c'est dans un, ça se continue. Hein. C'est pour ça que je refuse de faire des tableaux à partir de ça, bien qu'on me le demande plein de fois. 19e, ben, la nature, elle devient symbole de liberté. C'est la constitution d'un imaginaire bourgeois. La nature, elle est complètement idéalisée. Évidemment, la nature va s'opposer à l'urbanisation, à l'industrialisation. Et là, on le voit, la nature n'est peut-être jamais parue si belle que quand la machine a fait irruption en ville. Bariton, 1998, un traité de plus de 3000 pages, je vous invite vraiment à 1500 pages, je vous invite vraiment à le lire, il y a des pages splendides dedans. La nature, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'elle devient un élément de bien-être sanitaire. Bien-être sanitaire. On va concéder à cette période des lopins de terre aux ouvriers. Alors pourquoi? Parce que ça permet le contrôle social. En cultivant, ces individus vont moins au café, il y a moins de revendications, c'est un lieu qui ne respecte pas l'ordre social et de revendications aussi. Donc finalement, les entreprises vont concéder des lopins, gratuitement ou pas, à leurs ouvriers pour pouvoir faire en sorte qu'ils aient une activité physique intéressante, qu'ils puissent récolter des produits de la terre, mais aussi qu'ils soient éloignés des lieux qui peuvent générer du conflit social selon eux. Alors ça, c'est le premier aspect. Évidemment, ce n'est pas par hasard que des grands chefs d'entreprise se posent cette question-là. C'est qu'à cette période, on a l'exode rural en ville. Et les gens, ils ont encore cette idée de la nature en eux. Ils ont perdu le lien, mais ils ont encore cette mémoire. Donc en fait, ils ont un besoin de nature qui est présent. Donc on essaye de le satisfaire aussi de cette manière-là. Et puis, évidemment, le 19e siècle, c'est quoi? C'est la question urbaine et les maux de la ville. Et donc, comment on peut faire en sorte que la ville soit plus saine? Donc, on va assainir l'air, on va aérer le tissu urbain. Et donc là, évidemment, c'est les parcs publics aux quatre points cardinaux de Paris avec Alphand. Je vous invite à relire c'est même pas un ouvrage, c'est des plaques sur les jardins d'Alphand, 1867-1873, où il y a certaines phrases qui sont assez fabuleuses de sa part, où on voit bien qu'on doit aussi avoir du contrôle social dans les parcs. Je vous invite vraiment à le lire. Et évidemment, on verra qu'on proposera aussi un peu plus tard, donc 24 squares en ville, de manière à ce que les Parisiens soient à moins de 10 minutes d'un square. Et puis Hénard, un peu plus tard, nous dira qu'il faut en rajouter 18. Hénard, donc, qui a inventé le terme espace vert, lorsqu'il travaillait à cartographier les jardins de Londres et de Paris entre 1903 et 1906, si je m'abuse sur le bouquin. Donc c'est la montée de l'hygiénisme, ça vous connaissez tous, une nature qui est malgré tout réservée. C'est une nature complètement réservée malgré les discours. Elle donnera évidemment des utopies comme les Garden City ou alors les Usonia Homes. Mais on a une nature qui est purement, à ce moment-là, dans les Usonia Homes, une nature qui est privée. D'accord ? Donc là, on verra la différence avec les propositions de la charte d'Athènes par la suite. Puis, ce fameux courant progressif. Plus la ville s'accroît, moins les conditions de nature sont respectées. C'est la proposition 11 du Corbusier en 33. Pareil, je vous invite à relire. La nature, dans sa conception urbanistique, possède des propriétés bienfaisantes indispensables à l'individu. Et la nature doit être publique. Donc par rapport aux utopies où forcément la nature pouvait être dans certains cas privée, là c'est la nécessité d'avoir une nature publique. Alors évidemment, les Trente Glorieuses arrivent là-dessus. Comment satisfait mon désir de nature? Pas forcément avec les grands ensembles et les espaces qu'on dira verts, mais simplement en achetant un pavillon avec jardin en périphérie des villes. C'est évidemment permis par l'augmentation du niveau de vie des Français, par la diffusion de l'automobile, mais également la construction de l'autoroute, les week-ends qui apparaissent et la politique d'aide à la pierre. Donc l'étalement urbain est finalement un résultat de notre désir de nature, si on veut le faire assez vite, mais aussi auquel il faut ajouter certaines politiques publiques ou un certain contexte économique au cours de cette période. Alors la nature, finalement, à ce moment-là, si effectivement ce désir nous pousse à avoir un pavillon avec jardin, est-ce qu'on peut dire que c'est parce que la nature est un élément de notre bien-être? Est-ce qu'on est conscient de ça? Et quels sont les bienfaits de la nature sur notre bien-être? Alors là, évidemment, vous voyez, il faut aller lire les textes. Il y a beaucoup de textes qui vont nous mettre en évidence les vertus thérapeutiques de la nature. On nous dit que par sa simple présence, elle diminue le stress, la fatigue mentale. Vous avez des travaux qui datent de Schiss et Manzer en 91. L'état de santé, la proximité d'éléments naturels qui est mise en évidence. On sait aussi que par son contact, elle diminue la fatigue mentale. L'existence de ces fameux paysages thérapeutiques de Gessler et Uhrhild en 84, qui nous montrent que quand on a une chambre avec vue sur un parc, la durée de convalescence est plus courte que si on a une convalescence sans vue sur un parc. L'hyperactivité la fenêtre avec vue sur le jardin pour les enfants qui sont hyperactifs, ça marche. Si vous avez un enfant hyperactif, mettez son bureau en face de la fenêtre du jardin. L'image de nature et le fait qu'un simple poster de nature nous fait du bien, cause 90, l'anxiété et les paysages naturels. Et là, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est évidemment que le niveau de bien-être déclaré est plus élevé par 5000 Anglais quand ils habitent dans un quartier où il y a des espaces de nature, plutôt que par rapport à d'autres Anglais qui habitent dans un quartier où il y a peu d'espaces de nature. Autre élément intéressant, évidemment qu'on ne peut pas mettre de côté, la fameuse pyramide de Maslow qui va hiérarchiser les besoins des individus, même si ce n'est pas lui qui a construit la pyramide en tant que telle. C'est évidemment que finalement, il y a une nécessité d'un contact avec la nature à côté de nos besoins physiologiques, de sécurité, d'appartenance, d'amour, d'estime, d'accomplissement. Et puis, en 2008, il y a une étude qui est sortie de Masuora et Kaplan, dans une revue de 90 articles dans la revue Landscape and Urban Planning, je crois, qui montre qu'il y a un lien indéniable entre nature et bien-être. Donc des travaux qui vont nous montrer que la nature est bienfaisante pour l'homme, qu'elle a des vertus thérapeutiques. Et donc on se demande, mais alors que Stéphane Kaplan, qui est quand même un spécialiste de la question, en 1992, il nous disait l'homme ne se rend pas compte de son besoin de nature, même s'il aime la nature. Est-ce qu'aujourd'hui, les citadins sont conscients de leurs besoins de nature? Est-ce qu'ils sont conscients de cela? Et la réponse, pour moi, elle est plutôt positive. Donc, du coup, j'arrive à la troisième partie. La nature va être un élément constitutif du bien-être. Il y a un désir de nature et un bien-être qui est reconnu. En Europe, il y a 7 Européens sur 10 qui cherchent à vivre près d'un espace. Excusez-moi, il y a une coquille d'un espace vert. Il y en a qui vont chercher le contact quotidien au végétal pour 90% des Français, 75% des Espagnols et des Allemands, et un peu moins des Anglais. Les femmes sont plus sensibles que les hommes et déclarent un désir plus intense. Et en France, qu'en est-il? Il y a un plébiscite des villes vertes et des espaces verts. 72% des Français déclarent prendre en compte les espaces verts quand ils choisissent de se localiser, de changer d'appartement ou de maison. Il y en a 3 sur 4 qui se rendent régulièrement dans des espaces verts de leur commune. Et on sait que l'accroissement du bien-être des ménages qui s'installent en périphérie est lié à leur contact avec la nature et non pas, vous le voyez, à la proximité des commerces ou à avoir un logement plus accessible. Si on pose la question à des Lyonnais, à 150 Lyonnais, et on leur demande quelle est la première caractéristique d'un quartier idéal, qu'est-ce qu'ils vous répondent? Il faut qu'il y ait des squares et des jardins. Ça arrive avant l'accessibilité au commerce, au reste de la ville, ou l'accessibilité du quartier au reste de la ville, ou du niveau de sécurité. Et c'est confirmé par des enquêtes qu'on a menées en 2017 à Lyon, encore auprès d'un échantillon représentatif de la population. Donc la nature est un élément essentiel contribuant au bien-être d'une majorité d'individus. Ils en sont conscients. Elle correspond pour 56% d'entre eux à un besoin vital et pour à peu près, alors si je me trompe, 40% des individus, c'est une aspiration, donc c'est du désir ou un rêve. On pourrait continuer comme ça, mais je pense que je vais être trop longue si je donne tout le détail. Bah, de toute façon, ça pourrait être publié, c'est en cours de publication pour certains résultats. On voit que pour 95% des personnes interrogées à Lyon, la nature, elle est importante. Et c'est confirmé par d'autres enquêtes. Et ce que je tenais à vous souligner, c'est qu'on voit que dans une enquête qu'on a menée d'un projet pour et sur le développement régional et qui a affilié un PEI, donc un projet FEDER, on a posé à partir d'un jeu de cartes de 29 éléments aux individus quels étaient les éléments les plus importants parmi ces 29. On leur demandait d'en choisir 10. Eh bien, il y a 71% des Lyonnais qui ont répondu un environnement sain et sans nuisance, et 51% ont répondu le paysage naturel. Donc les aménités environnementales arrivent en premier comme élément important pour le bien-être des individus. Ça se confirme également dans les espaces ruraux, puisque là, c'est la carte, évidemment, paysage naturel qui va arriver en premier. Et bien au-delà de celle de la sécurité, de l'accessibilité, de l'emploi. Alors, quelle nature désirée ? Évidemment, une nature verte, confortable, utile. Hein. Alors, on va voir que définir la nature que chacun désire, c'est complexe. Alors, pourquoi ? Ben, d'abord, parce que le désir, il est propre à chacun. C'est une caractéristique de l'individu dans ce qu'il a d'unique. Le désir aussi, c'est un construit social dont les composants sont liés à la culture. Représentation et culture, ils jouent un rôle essentiel dans la manière de concevoir le lien nature et société. Là, je vous renvoie aux travaux de Larère, leur dernier ouvrage de 2015, qui donc va induire une définition du rapport ville-nature. Donc, imagine bien que le désir de nature, il n'est pas homogène à travers la société. Il dépend de notre milieu dans lequel on vit, milieu physique, milieu social, de notre éducation, etc. On peut en rajouter de notre religion, hein. On peut en rajouter comme ça certains éléments. Donc les parcs et les jardins représentent la culture d'un pays, ça vous me l'accordez, on parle de jardin la française, de jardin anglais et de jardin japonais. Et on a évidemment une évolution de la représentation de la nature avec ces fameux, finalement, mouvements hygiénistes qui va nous conduire à nous dire que la nature, c'est un tout, c'est une réalité qui est évidemment mouvante et que les personnes vont percevoir des choses différentes. Mais alors, qu'est-ce qu'ils entendent par nature ? Alors, pour s'en sortir un peu, qu'est-ce qu'on fait ? Je fais appel à la typologie de John Tixon Hunt en 1996, qui distingue la nature sauvage, vierge, de l'autre nature, cette fameuse nature exploitée par l'homme pour satisfaire ses besoins, celle alteram naturam de Cicéron, avec de très très belles pages dans une traduction du 18e. Ou alors, une nature magnifiée par l'art, la terza natura de Jacopo Bonfadio, quoique, est-ce que c'est vraiment lui ? Si vous allez vers les écrits de Bartolomeo Taeggio en 1559, ou encore, on trouve un très très beau texte de Le Tasse au milieu du XVIe, la Jérusalem délivrée, et là apparaîtrait la troisième nature. Et donc, juste pour me faire plaisir, je vais vous lire... ce qu'entend ce fameux texte de Jérusalem, la Jérusalem délivrée. Évidemment, je ne suis pas à la bonne page, c'est normal, hein, mais parce que vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et là, je vous lis, donc notons cette idée d'une nature liée à l'art, se trouve aussi dans la Jérusalem délivrée, un poème du Tasse. C'est une traduction de 1794 d'un poème qui date entre 1544 et 1595. J'ai pas la date exacte, je ne l'ai pas trouvée. À travers 1000 tortueux sanciers, les deux guerriers arrivent enfin au jardin enchanté. Ils offrent à leur vue des eaux dormantes et des ruisseaux qui roulent sur un sable d'argent, l'or mobile cristal. Des fleurs, des arbustes, des gazons, des coteaux que le soleil dore de sa lumière, des grottes et des forêts, éternelles verdure. L'art qui créa ses beautés y ajoute encore par les soins qu'il prend à se cacher. Et à la strophe 10, « Ah, l'heureux désordre qui règne en ces lieux, on croira qu'ils doivent tout à la nature, on croira du moins que la nature a voulu jouer l'art et l'imiter à son tour. » Donc évidemment, à partir de cette typologie, on peut essayer de définir ce que nous, on va entendre aujourd'hui comme sous le vocable « nature ». Et c'est assez facile. On utilise des enquêtes, il y en a un certain nombre, qu'on conduit nous-mêmes ou qu'on trouve dans la littérature. Et pour les Français, la nature, elle est synonyme de végétal. Elle est verte. Alors que pour les Anglais et les Allemands, elle est plutôt, c'est de l'eau et elle est et la faune. Donc elle est bleue et elle est animale. Voilà ce qu'on trouve dans les enquêtes européennes. Sur l'enquête qu'on a menée à Lyon, la nature est synonyme de quoi ? D'un sentiment agréable. Donc, elle relève de l'immatériel. Elle participe à l'amélioration de la qualité de vie. Pour un peu plus d'un quart qui ont répondu que la nature, c'est plutôt une nature diffuse, c'est l'eau, les fleuves, les arbres. Et puis, il y a un quart des personnes qui ont répondu la nature en ville, ce sont les parcs, les jardins, les espaces verts. Donc là, on ne leur demandait pas, on les laissait libres. C'était une question complètement ouverte. Après, on a fait des regroupements. Donc on voit que finalement, il y a quand même une désaffection pour la faune. C'est confirmé par d'autres enquêtes menées en 2011, notamment celle de, alors là, je vais mal le prononcer, Schwartz. Mais c'est confirmé aussi, là, j'ai lu une thèse dernièrement de Bassem Mouad à Lyon et à Strasbourg et à Marseille, qui montre que dans le discours des habitants des Marseillais, des Strasbourgeois, ben finalement, la faune est peu présente. Donc, la première nature n'a pas été évoquée par les Français, les Anglais et les Allemands pour l'Europe. Très peu à Lyon. Hein. Elles n'y pensent pas spontanément, même si elles sont sensibles à la faune. Hein. Et sous le vocable nature, le citadin français entend essentiellement le végétal. Il souhaite une nature domestiquée, façonnée pour et par l'homme. Mise en scène esthétique, c'est cette fameuse terza natura. Et qu'est-ce qu'ils désirent ? De la pelouse non interdite. Non, mais là, je vous renvoie à d'autres textes, je ne peux pas synthétiser tout. Donc, c'était juste pour vous donner le petit truc sur ça. Alors, évidemment, j'ai fait la démonstration, j'ai essayé de vous démontrer qu'il y avait une montée de la conscience écologique en France et qu'elle avait des effets sur l'aménagement, qu'elle touchait la société civile, le monde économique et puis finalement la gouvernance globale et locale. Que ça générait un aménagement diversifié, une gestion alternative des espaces verts, de nouvelles réglementations, des lois, de nouveaux labels. Ce désir de nature, on va voir émerger de nouvelles formes de nature qui n'existaient pas à travers l'histoire urbaine ou qui étaient prégnantes, avec une nature de plus en plus publique et ouverte à tous, entre guillemets. Cependant, la nature, c'est quoi aussi ? C'est un outil, elle est mobilisée pour réduire les nuisances urbaines. On sait, par exemple, que les arbres, les surfaces herbacées, les parcs, les jardins urbains vont permettre de lutter contre l'îlot de chaleur urbain. Je vous renvoie aux travaux de Nina Cosset, super travail, Sister UMREVS, sur cette question. Et puis, évidemment, un ouvrage de Mussy, c'est la ville verte, je crois que c'est 2014, c'est un collectif, c'est le résultat de plusieurs travaux, d'un projet européen, si je m'abuse. Après, on voit à côté qu'on a quoi ? Bah, les plantations de rue qui, elles, pourraient réduire la température du macadam. Pourraient, parce qu'il y a encore des résultats qui ne sont pas forcément confirmés. On sait aussi que les végétaux vont jouer un rôle dans l'isolation thermique. Donc la nature, elle est utilisée pour faire quoi ? Pour rendre des services à l'homme. Elle acquiert une valeur et un prix à travers les services écosystémiques. Et selon Virginie Maris, elle devient une marchandise. Et là, un souci peut-être apparaît. En tous les cas, il faut être vigilant. Il y a un risque de hiérarchisation des écosystèmes qui pourrait avoir un effet négatif sur la biodiversité. Si certains écosystèmes rendent plus de services et puis que certaines populations peuvent en fait en payer le prix, à ce moment-là, on ferait un choix dans ces écosystèmes et donc ça aurait un effet négatif sur la biodiversité. Donc évidemment, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut dépasser cette vision de court terme. Et est-ce que cet homo qualitus qui fait de la préservation de son environnement un élément de son bien-être et du désir et de cette satisfaction de son désir de nature un élément de son bien-être comme pour d'autres éléments, est-ce qu'il sera capable de résister à cette montée d'une instrumentalisation de la nature en ville? Et là, c'est juste pour montrer que c'est pas simplement lié forcément à la biodiversité, mais comment on peut instrumentaliser la nature en ville et là je rentrais dans la controverse, hein, évidemment, c'est tout simplement à la Goutte d'Or, vous voyez ces photos qui ont été prises à la Goutte d'Or dans un quartier à Paris du 18e qui est en cours de gentrification, où on avait des pratiques qui étaient non désirées, notamment des gens qui dormaient en dessous les arcades. On a planté des bacs. En dessous ces arcades, et du coup, bah, évidemment, les populations ne pouvaient plus dormir dessus. Donc, en fait, ça permet de se débarrasser de pratiques qu'on ne veut pas voir dans l'espace urbain. Autre exemple, toujours dans le 18e arrondissement, là, je n'ai pas de photos et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Peut-être qu'on coupera la conférence à ce moment-là. Sur une place à côté de la poste, dans le quartier de la Goutte d'Or, il y avait des enfants qui jouaient régulièrement au vélo, qui faisaient évidemment du bruit, qui embêtaient les nouveaux arrivants, qui avaient acheté des appartements, entre guillemets, ou tout simplement des populations qui vivaient autour de cette cour, de cette place. La mairie de Paris a mis des bacs à fleurs. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants ne vont plus jouer, mais plus personne passe par là parce que les bacs sont des caches pour des produits illicites. Donc, vous comprenez pourquoi je n'ai pas pu faire la photo un vendredi soir. Voilà, juste pour entamer le débat. Évidemment, ce n'est pas l'objet de la conférence, mais voilà, pour montrer qu'il y a quand même des choses qu'il faut qu'on pense quand on aménage et peut-être à être vigilant par ces éléments-là qui finalement, est-ce qu'on est vraiment homo qualitus quand on empêche certains aspects qui sont indéniables de faire jouer les enfants sur une place publique, quoi. Voilà, merci de votre attention.
Merci Elise pour cette...